Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, merci d'être avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Témoignage RMC dans le journal d'une ancienne élève de l'enseignant accusé de viol et d'agression sexuelle sur une trentaine d'enfants à Bordeaux. Mise en examen, placé en détention provisoire, un enseignant qui s'était fait repérer lors d'un voyage scolaire. Nouvelles actions agricoles ce matin sur le périphérique à Toulouse, RMC est en direct sur l'autoroute entre Marseille et Toulon également. Et puis le bilan qui s'alourdit à nouveau en Iran ce matin. On parle désormais de plus de 2400 morts. Les États-Unis menacent d'intervenir.
C'est un témoignage douloureux que vous allez entendre.
Oui, témoignage RMC d'une ancienne élève de cet instituteur de Bordeaux qui enseignait dans l'école privée catholique privée Saint-Genès-Lassalle. On vous a déjà parlé sur RMC de ce père de famille de 54 ans accusé de 17 viols, de 6 agressions sexuelles, de voyeurisme aussi. Accusé en fait d'avoir sévi durant les ateliers du goût. Bérangère Bocquillon, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage RMC d'une plaignante, donc Marianne, aujourd'hui âgée de 26 ans et ancienne élève de cet enseignant.
Marianne a 8 ans en 2008 quand son enseignant de CM1 lui propose, avec une camarade, de participer à un jeu du goût pendant la pause déjeuner.
Il nous bandait les yeux, il nous faisait goûter différents aliments avec une cuillère. Donc là, j'avais directement senti que c'était quelque chose de pas normal.
Marianne estime aujourd'hui que ce jeu visait à lui imposer une fellation, mais pendant des années, elle est dans le déni.
On nous disait que c'était pas possible. À l'école, il était adoré, tellement aimé qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des pieds et des mains pour que leurs enfants soient dans sa classe.
Jusqu'au jour où l'enseignant est dénoncé par des élèves qu'il avait filmés pendant leur douche lors d'une sortie scolaire. Il est alors mis en examen pour voyeurisme.
Je l'ai appris, je travaillais chez Decathlon. Il y a la radio qui passe en boucle, juste qu'il y avait une affaire de voyeurisme à Saint-Genès. Et quand j'ai appris ça, je me suis évanouie.
Marianne porte plainte le lendemain, 15 ans après les faits. Elle apprendra ensuite qu'une mère a tenté de prévenir l'établissement dès 2011.
J'en veux beaucoup. L'établissement auquel on faisait confiance, j'avais beaucoup de culpabilité de ne pas avoir assez parlé en 2008. Parce que j'aurais aimé que ça ne se reproduise pas. Mais en même temps, quand je vois que finalement beaucoup de personnes étaient au courant, je me dis que les cas, ma parole, elle aurait eu peut-être aucune valeur.
L'enseignant est incarcéré depuis 2023. Il a reconnu certains faits, mais ne reconnaît pas les viols.
Le gouvernement appelle les députés à un dernier effort pour trouver un compromis sur le budget espéré pour la fin du mois, alors que le 49-3 est demandé avec de plus en plus d'insistance par certains parlementaires. C'est aujourd'hui que sont examinées les deux motions de censure du RN et des Insoumis déposées après le feu vert donné à Bruxelles pour le traité avec les pays du Mercosur.
Et ce matin encore, les agriculteurs se mobilisent. Ils bloquent en ce moment le périphérique de Toulouse.
Oui, au lendemain des annonces du Premier ministre Sébastien Lecornu qui prémet une loi agricole d'urgence avant l'été. Donc c'est très compliqué ce matin de circuler à Toulouse avec la nouvelle action des agriculteurs. Vous confirmez Jean-Wilfried Forquès en direct pour RMC sur un des points de blocage.
Très très compliqué, oui, effectivement, des opérations de blocage qui ont débuté tôt dans la nuit, au milieu de la nuit, des voitures, des camions à l'arrêt, des automobilistes ulcérés que nous avons rencontrés il y a quelques minutes. L'action se poursuit sur le périphérique. Elle avait débuté de façon symbolique dans la nuit, à proximité de la préfecture de Toulouse, où une équipe de la coordination rurale a été délogée par les policiers et les forces de l'ordre. Il y a eu quelques interpellations. Deux personnes seraient toujours au moment où on se parle, Quentin, en garde à vue. Et le reste de la troupe, eh bien, est parti sur un autre point pour un autre barrage filtrant qui est en cours. Barrage filtrant, cette fois à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Voilà, je précise, c'est compliqué aussi de circuler entre Marseille et Toulon, donc à l'autre bout de la France, avec une opération escargot en ce moment sur l'autoroute A50. En revanche, c'est fini à Paris. Les agriculteurs qui ont passé une partie de la nuit devant l'Assemblée nationale ont levé le camp vers 5h du matin. Et alors, conséquence de la crise agricole et notamment de la maladie bovine, eh bien c'est confirmé, Romain Houck pour RMC. Pour la première fois en 60 ans, il n'y aura pas de vache au Salon de l'Agriculture le mois prochain. Même la vache égérie ne sera pas là.
Mais oui, Biggin était censé être la star du salon. Cette année, eh bien, cette digne représentante de la race Brahman, tout droit venue de Martinique, s'en retrouve privée. On pouvait voir sa frimousse sur toutes les affiches officielles de l'événement. Elle n'apparaîtra finalement nulle part. Les affiches vont être changées en urgence et pour cause. Il n'y aura donc ni vache, ni veau, ni taureau lors de cette édition 2026. C'est ce qui laisse un vide immense dans les allées du salon que les organisateurs vont devoir combler à un peu moins de 6 semaines du coup d'envoi, repenser toute l'organisation du vaste Hall 1, dont la moitié est d'ordinaire réservée aux 600 bovins exposés. Quelques pistes existent déjà, faire venir des chiens de transhumance ou encore les chevaux de la garde républicaine. Alors, il y aura bien les autres animaux, chiens et chats, les porcs, les chèvres, même si déjà certains éleveurs de race ovine et porcine ont annoncé avoir pris la décision de ne pas exposer leurs bêtes par solidarité avec les éleveurs bovins. Reste à savoir quel impact tout cela aura sur la fréquentation, car nombreux sont ceux à se rendre au salon pour voir les animaux. Les organisateurs espèrent toujours rassembler, comme l'an dernier, au moins 600 000 visiteurs.
L'année 2025 a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, après 2024 et 2023 qui avaient déjà été des années records, trois fois donc d'affilée. C'est ce que disent, on dit durant la nuit, à la fois un institut américain et un institut européen. Le bilan s'alourdit encore donc ce matin en Iran. C'est l'ONG Human Rights qui parle désormais de plus de 2400 manifestants tués par la répression du mouvement de contestation depuis fin décembre. Et alors on se demande si les États-Unis vont intervenir. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant des RMC aux États-Unis. Donald Trump encourage les manifestants.
Oui, hier soir, Donald Trump a réuni à la Maison-Blanche son équipe de sécurité nationale, une réunion potentiellement décisive. Le président, avant cela, avait lancé un appel au peuple iranien, appel à renverser les mollahs. Il promet que de l'aide est en route, sans préciser de quelle façon les Américains vont s'engager. Il y a en fait tout un éventail de réponses possibles, des frappes, bien sûr, contre des cadres du régime ou contre les gardiens de la révolution qui mènent la répression, mais ce pourrait être un engagement plus limité, comme une cyberattaque, par exemple. Pour le moment, on ne sait toujours pas de quel côté penche la balance. Trump est resté silencieux depuis cette réunion. Une chose semble acquise en tout cas, la piste diplomatique n'est plus d'actualité. Trump dit qu'il est impossible de négocier avec le régime tant que le massacre des civils se poursuit.
C'est le dernier carré à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y aura les deux demi-finales ce soir sur RMC Radio Officielle. La première à 18h entre le Sénégal et l'Égypte, forte rivalité entre ces deux pays. Et la deuxième à 21h entre le Nigeria et le Maroc à la maison, qui a la pression, Aurélien Tiersin.
La pression est énorme sur les épaules des Marocains. À domicile, 2 ans après la demi-finale historique à la Coupe du Monde 2022, les hommes du coach Walid Regragui n'ont plus le choix.
Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans, on a fermé les oreilles. On sait que voilà, il nous reste 2 marches. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale.
Pour rejoindre la finale, il faudra battre le Nigeria, 17 fois demi-finaliste de la CAN, meilleure attaque de la compétition. Une bête féroce, inquiétante pour Adil Ben Malek, journaliste marocain.
Je me fiance. Pour moi, Osimhen, Lokman, Wadams, c'est un trio infernal. Pour moi, c'est le vrai test.
Et c'est un test devant un stade Moulay Abdallah de Rabat plein à craquer. Ce sera la force des Lions de l'Atlas, selon Omeyma El Rafai, reporter au Maroc.
Avec un stade de 68 000 personnes, donc bon courage. Je pense que même le Nigeria, la marche semble haute. On a la possibilité et les arguments pour la dépasser.
Les Marocains qui attendent leur première finale de Coupe d'Afrique depuis 22 ans et leur premier sacre depuis 1976.
On suivra ça ce soir sur RMC, une soirée spéciale Cannes dès 20h. Je vous signale qu'il y aura un premier hommage à Roland Courbis cet après-midi à Paris, messe à 15h en l'église de la Madeleine, avant les obsèques samedi à Marseille. Et puis il y aura 3 affiches entre clubs de Ligue 1 début février. Là je parle des 8e de finale de la Coupe de France, notamment Marseille face à Rennes. Les Marseillais qui sont qualifiés hier soir en se baladant 9-0 contre le petit poussé Bayeux.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, la fraude sociale est évaluée à 14 milliards d'euros pour 2025.
Oui, et c'est 1 milliard de plus qu'en 2024, nous dit le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Augmentation d'ailleurs qui est plus liée à l'inflation mécanique des coûts qu'à une intensification de la fraude qui est jugée à peu près stable. Alors, il faut bien préciser que c'est une fraude théorique, une fraude estimée, parce que les fraudes réellement détectées, c'est 2 milliards seulement, et que les fraudes évitées par les contrôles, etc., c'est 500 millions, et qu'au final, sur les 14 milliards de fraudes estimées, l'État n'en récupère que 700 millions. Alors, peut mieux faire, c'est sûr, mais ce n'est pas, en tout cas, avec ça qu'il faudra chercher la martingale pour résorber le déficit de la Sécu.
Alors, les fraudeurs, c'est qui ?
Alors, les principaux fraudeurs, ce sont les entreprises. Un peu plus de la moitié de ces 14 milliards d'euros proviennent, effectivement, alors essentiellement de la dissimulation ou de la minoration des heures travaillées. C'est particulièrement vrai dans des secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie, restauration et les transports. C'est la faute aussi aux assurés sociaux, cette fraude. Hein. 36% de ces 14 milliards de fraudes sont imputables aux assurés sociaux. C'est des arnaques aux prestations familiales, c'est des arnaques aux aides au logement ou à l'assurance maladie. Et puis, il y a les professionnels de santé aussi, mais c'est 12% seulement de la fraude. Là, ce sont des actes facturés, mais qui sont pas réalisés, ou bien partiellement. C'est des prescriptions de médicaments injustifiées, c'est des surprescriptions d'arrêt de travail.
On est sur une estimation qui vous semble réaliste ou sous-estimé ?
Non, sous-estimé.
Sous-estimé,
incontestablement. D'abord parce que les heures non déclarées par les entreprises, c'est très difficile à repérer et que c'est sans doute un peu plus. Et puis ce chiffre de 14 milliards, il n'inclut pas certaines fraudes comme celles attribuées aux micro-entrepreneurs. Or, par exemple, parmi les travailleurs des plateformes qui sont des micro-entrepreneurs, 71% déclarent un chiffre d'affaires inférieur au montant des transactions enregistrées, qu'on peut vérifier par exemple avec les cartes bleues. Et tenez bien, ce montant de sous-estimation du chiffre d'affaires, il atteint 90% pour les livreurs à domicile et pour les VTC. Donc voilà. Et puis les fraudes sont aussi très difficiles à détecter chez les assurés, parce qu'en fait, c'est des petits montants. Donc c'est très compliqué d'aller les chercher et c'est extrêmement répandu. Alors que dans les entreprises, il y a peu d'entreprises qui fraudent, mais ce sont des plus gros des plus gros montants. Alors il y a des progrès qui sont quand même envisageable, hein, grâce au croisement automatique des fichiers, par exemple, ou à la détection avec l'intelligence artificielle des incohérences entre les revenus et les dépenses. Ça marche, mais effectivement, c'est pas avec ça, encore une fois, qu'on résoudra
le
problème de déficit.
Compte, et effectivement, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui est mon invité dans 15 minutes sur RMC et BFM TV dans le face-à-face, il cherche des milliards. Hein. Il dit qu'il faut absolument qu'on repasse sous la barre des 5% de déficit. Je suis pas sûr qu'il va vraiment trouver cela, semble-t-il. Merci en tout cas, Emmanuel Le Chip. 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30, je le disais, mon invité, c'est François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Il nous dira comment va la France, l'économie française. Et juste après, Nicolas Canteloup, comme chaque matin, face à Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. Il est 8h11, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour. Avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour Hubline. Bonjour aussi à nos 90 000 nouveaux auditeurs qu'on va saluer.
Bravo.
Un par un. Il y a Pauline Duchemin, boulangère à Creutzwald. Roger Froussard, pompier à Nantes. Sybille Veil, directrice à France Inter à Paris, qui nous écoute en disant mais comment ils font pour monter autant?
Où trouvent-ils tant d'énergie?
Cette énergie. On les embrasse tous. Allez, l'actu, ce sont les municipales à Paris. Et un sondage donne Rachida Dati derrière le socialiste Emmanuel Grégoire. Elle doit être vénère, Rachida, parce que le contrat de base, c'était « J'accepte d'être ministre de la Culture dans des gouvernements pourris et en échange, je suis élu à Paris dans un fauteuil. » Et en fait, ça va pas être si simple, c'est l'arnaque. Elle s'est faite avoir. Hein. Pendant 2 ans, elle s'est enfilée des pièces de Bertolt Brecht en allemand, qui durent 7 heures à Avignon, avec des comédiens de Düsseldorf entièrement nus, qui font rouler des pneus de tracteur sur lesquels il y a marqué « Cosmos éternel » en grec ancien. Quand j'ai voulu revisiter le mythe de Sisyphe qui pousse le poids de la culpabilité entièrement nu devant les dieux de l'Olympe. Oh, ta gueule! Madame la ministre, faut pas qu'on traîne. On a rendez-vous à la Biennale d'art contemporain de Belfort. Il y a un artiste slovaque qui se cloue le scrotum sur le portrait de l'ayatollah Khomeini pour dénoncer la situation en Iran. Oh, comme vous avez de la chance! J'aimerais assister à quelque chose d'aussi puissant. Toi, vraiment, ta gueule! Donc, subir tout ça pour se faire battre par l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo. Mais Paris est trop à gauche, Rachida. Voilà, faut qu'elle boboïse son discours. Faut qu'elle fasse « Merci à tous, point E, point S, point tout, d'être venu, point E, à l'inauguration de cette place Christiane Taubira. » Car ce n'est plus la place de la Concorde, c'est ta place, Christiane, qui sera d'ailleurs végétalisée. On va mettre 4 bacs à géranium remplis de mauvaises herbes, comme le faisait Anne Hidalgo. Putain, ils sont contents, ces cons. Alors, le Ritz sera transformé en friperie vintage où on vendra des vinyles à 50 euros et il y aura une fontaine à kombucha. Ah, ils sont encore contents. C'est plus pro Hidalgo, là, c'est le syndrome de Stockholm.
Le procès un appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics se poursuit.
Oui, alors je lisais la presse hier, il y a un truc, il y a une possibilité qui est vraiment rigolote, c'est qu'elle soit condamnée, mais sans la peine d'inéligibilité. Ah. Autrement dit, Marine Le Pen pourrait être autorisée à faire campagne pour l'élection présidentielle, mais avec un bracelet électronique. Ah. Ce serait hilarant. Ce serait hilarant en campagne en banlieue. Madame Le Pen, bienvenue dans ce commissariat. Vous voyez, on a un problème avec la délinquance en ce moment.
Oh pardon, excusez-moi, c'est mon bracelet. C'est votre commissariat qui est trop loin de mon commissariat.
Du coup, elle va faire une télécampagne chez elle, sur Zoom.
Oh, désolé, j'aurais adoré inaugurer la foire à la saucisse de Montluçon, mais je suis coincé chez moi, vous comprenez. Les juges rouges, elle va y prendre goût, hein. Visiter un méthaniseur de Lisier-de-Port en Meurthe-et-Moselle, oh, j'aurais tellement aimé, c'est bête. Raphaël Glucksmann, il va dire, ouais, moi aussi j'ai détourné des sous. Je suis obligé de sortir du 6e arrondissement, je peux plus là, c'est con.
Mattel va sortir une Barbie autiste.
Oui, on avait déjà eu plusieurs Barbie de ce genre, porteuse de handicap, hein, la Barbie trisomique, la Barbie aveugle, la Barbie en fauteuil roulant, la Barbie Picard avec ses, avec ses cinq enfants issus de quatre Ken indifférents qui refusent de verser une pension. Et ben là, la Barbie autiste et chez Chine, c'est branle-bas de combat. On va pas se laisser bouffer par des parts de marché, par ces camps d'Américains. Appelez le BHV, dites-leur qu'on envoie des poupées sexuelles en fauteuil roulant et des trisomiques gonflables. Et là, t'as Frédéric Merlin, le patron du BHV. Yes ! De quoi rebooster les ventes. Alors oui, en tant qu'humaniste, ça me choque. Mais bon, ça se vend, hein, ça se vend. Il va aller au BHV voir les clients. Bonjour monsieur, une poupée myopathe, s'il vous plaît. Vous me dégoûtez. Elles sont là. 550 euros, s'il vous plaît. Ah, j'ai honte de toucher cet argent, monsieur. Si on faisait pas autant de marge, ça se passerait pas comme ça. En tout cas, c'est l'occasion d'un petit quiz, oui. Apolline. Ah. Attention, oui. Ce jouet a-t-il vraiment existé, oh là là, ou pas? Est-ce qu'on a fait ce jouet? Top, c'est parti.
J'ai peur.
Un kit de soldat de plomb à faire soi-même, c'est-à-dire que les enfants devaient faire fondre du plomb à 3000
degrés. Eh ben, c'est tout à fait possible.
Oui, c'est vrai, ils l'ont fait. Le Cluedo Bétarame. Qui a agressé Théo dans la chapelle avec le chandelier? Non, ils ne l'ont pas fait. Un kit de petit chimiste avec de l'uranium. Ils l'ont fait. Ça a été vendu dans les années 50. Le Monopoly Sarkozy avec 30 cases prison. Non, ils l'ont pas fait. La poupée pole danseuse.
Bah, peut-être.
Oui, ils l'ont fait. Oui, ça existe. Des figurines de chats écrasés avec les tripes qui sortent vraiment. Le pistolet en plastique pour jouer à la roulette russe rigolote. On se le met sur la tête.
Bah,
oui, 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 ça a été fait, ça a été fait, bien sûr que si. Bravo Apolline, vous avez gagné.
Merci Arnaud, vous retrouvez tous les jours en direct, 7h20, 8h20, et à tout moment en podcast, bien sûr. Ah tiens, et puis vous partez en tournée.
Oui.
En tournée partout en France avec un nouveau spectacle. Vous serez à Nice, à Aix-en-Provence, à Caen, à Rouen, à Versailles, à Toulon. Un spectacle RMC. Versailles, vous allez à la maison.
Ouais. Oui, à domicile, je joue à domicile. Régional de l'État.
Il est 8h20 au 32-16. Il y a Mohamed qui voulait réagir à la chronique tout à l'heure de notre voix de droite, Louis Sarkozy. Vous m'entendez, Mohamed?
Oui, bien sûr, je vous entends tout à fait.
Bonjour Mohamed, chauffeur poids lourd dans la région de Bordeaux. Louis Sarkozy qui réagissait à la promesse du restaurant KFC d'ouvrir 24 restaurants halal. Et pour lui, c'était une islamisation, mais pour vous, non?
Non, pour moi, non, pas du tout. Après, faut pas non plus à chaque fois tout remettre sur la faute de l'islam. Après, faut voir économiquement, ce qui est logique. Arrive un moment, on regarde, on est commerçant, on regarde ce qui rapporte le plus dans notre poche.
L'offre et la demande.
Exactement. S'il a sa clientèle qui lui demande et que ça lui permet de tenir ses restaurants ouverts, faire continuer de travailler ses salariés, et rendre heureux plusieurs personnes, ben c'est pas une islamisation. C'est au jour d'aujourd'hui, faut pas se voiler la face. Si le poulet halal, il est moins cher, il y a aucun restaurateur qui va vous dire non, mais moi, par conscience, je vais virer 2-3 personnes pour faire plaisir aux autres. Comme ça, je continue à acheter le poulet à 5 € le kilo, alors qu'on me le propose à 2 € le kilo, façon de parler. Bah non, ils vont regarder.
Pour vous, c'est une question de prix, d'offre et de demande. Vous mangez halal, vous, Mohamed?
Je mange halal. Ouais. C'est une question de prix, de principe. Mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà plein de KFC. Bon, ils ne disent pas ouvertement, mais qui sont déjà passés au halal. Les flunch, vous avez la flunch, c'est pas marqué halal.
Alors, s'ils le disent maintenant, c'est parce que c'est presque devenu un argument, presque marketing,
exactement.
Quoi.
Exactement. Mais vous regardez, les fast-food, Quick, par exemple. Ils ont fermé, la plupart, ils ont fermé. Ils ont été rachetés par la grande marque Burger King.
Ok. Ouais.
Burger King a fait son pain. Et, okay. Ouais. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de couilles qui rouvrent, mais directement 100% halal. Et bizarrement, il remarche du tonnerre, alors qu'avant, il faisait faillite, il était en vente.
Ouais. Donc, c'est vraiment une question d'offre et de demande. Mohamed, je trouve ça très intéressant d'entendre justement tous les points de vue. Louis Sarkozy, tout à l'heure, vous, ce matin, qui nous écoutez, qui réagissez, qui appelez au 3216. Merci, Mohamed. Il y aura plein de trucs à se dire. On pourrait en reparler plein de fois. N'hésitez pas à rappeler. Je vous avais eu déjà en ligne, non, Mohamed?
Bien sûr. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, s'il
vous plaît? Allez-y.
Je vous donne le score ce soir. Le score, non. Ce soir, c'est le Maroc qui gagne et le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne.
Allez, merci. C'était donc les prévisions de Mohamed. Il est 8h22 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le gouverneur de la Banque de France. Alors oui, dit comme ça, ça paraît très austère, mais vous allez voir, c'est passionnant. C'est lui qui ausculte la France. C'est vraiment notre docteur. Alors, quel est le symptôme, quel est le diagnostic et quel est le remède sur l'économie française? Réponse dans un instant avec le gouverneur de la Banque de France. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La France des agriculteurs scindée en deux. À Paris, ils ont levé le camp tôt ce matin, satisfaits de leur rencontre avec leur ministre hier soir. Mais dans le sud, les blocages reprennent de plus belle sur le périphérique toulousain, à l'aéroport de Blagnac et sur l'autoroute A50 en direction de Marseille. Et puis, c'est une décision historique. Il n'y aura cette année aucun bovin au salon de l'agriculture, conséquence de l'épidémie de dermatose nodulaire. Ce soir, c'est le début des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. À 18h, Égypte-Sénégal et à 21h, Maroc-Nigéria. Côté météo, le temps est souvent gris et faiblement pluvieux. Il y aura quand même du soleil sur les Alpes. Côté température, elles sont toujours au-dessus des normales, comprises entre 10 et 17 cet après-midi.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
8h28 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et surtout nous dire comment va la France. Vous êtes gouverneur de la Banque de France, la France qui n'a toujours pas de budget, les discussions patinent, on n'est toujours pas sûr, peut-être 49-3, peut-être vote. Ils discutent en ce moment à l'Assemblée. Vous avez même parlé d'une sorte de façon de jouer avec l'impôt. Vous avez dit il faut arrêter de jouer avec l'impôt. Je vais vous interroger sur ce budget, mais au fond, j'ai envie de vous poser une question très large comme un docteur. Comment va la France dans ce contexte?
Alors la France, c'est notre pays que nous aimons tous et c'est nous tous. Moi, si je devais reprendre votre image, d'abord, je pense que notre morale n'est pas très bon. On le voit dans l'instabilité politique, dans toutes les querelles, etc. Notre corps va plutôt mieux quand on regarde notre santé économique. Nous venons de publier notre enquête de conjoncture. Elle montre une résilience de l'économie française. Donc si je pousse l'image, je dirais que notre corps va plutôt mieux que notre tête. Et puis il y a notre portefeuille. Alors ça, c'est la question du budget. Je ne parle pas de la situation financière de chacun, mais la situation financière du pays. Là, il y a trop de déficits, trop de dettes, et il faut absolument qu'on s'en occupe. On a d'ailleurs les moyens de s'en occuper.
Donc on a les moyens de s'en occuper. On va revenir dans les détails de ce qui va bien, parce qu'effectivement, vous le dites, finalement, ça va peut-être pas si mal, en tout cas du côté notamment des entreprises. Mais qu'est-ce que vous dites aux députés qui, en ce moment même, sont à l'Assemblée, en train à nouveau de discuter, de repartir presque à zéro de ce budget qui n'en finit pas? C'est quoi la priorité, là?
Alors moi, je vais pas dire aux députés ce qu'il faut
bien
faire.
Bien sûr, ça, chacun son rôle. Mais enfin,
c'est le débat de la démocratie.
Mais je crois dire ce qu'il faut faire pour que la France aille mieux.
Avec l'indépendance de la Banque de France, ce qui est souhaitable, c'est de continuer à réduire les déficits. On va peut-être dire un tout petit mot des chiffres dans le bulletin de santé. Notre déficit, là, en 2025, il est probablement à 5,4% du PIB rapporté à la taille de l'économie. Il faut qu'on aille à 3% d'ici 2029. Pourquoi 3%? C'est nos engagements européens, mais c'est surtout, Apolline de Malherbe, le seuil qui nous permet enfin de stabiliser le poids de la dette. Alors, si on doit aller dans cette direction d'ici 2029, il faut une nouvelle réduction en 2026, là, cette année. Or, on n'a pas encore de budget.
Oui.
Et tant qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de réduction du déficit. Ce qui est, me paraît à la fois indispensable et atteignable, c'est que le budget 2026, le déficit 2026, soit au maximum de 5%. Donc, vous voyez une nouvelle réduction. Au-delà, je suis obligé de dire, avec un peu de gravité, qu'avec un déficit supérieur à 5%, la France se mettrait dans la zone rouge, dans la zone de danger par rapport aux prêteurs internationaux, aux marchés financiers.
Ça veut dire quoi, la zone de danger? Quelles pourraient être les conséquences?
Alors, on surveille évidemment les marchés financiers, la confiance que nous font les investisseurs internationaux. Malheureusement, cette confiance a diminué depuis la dissolution de juin 2024.
On n'en parle plus tellement, on se dit, bah, ça tient, Moody's, oui, alors, les notes.
Voilà, non, mais vous avez raison.
Est-ce que c'est vraiment si grave?
Il faut pas se dire que le calme d'aujourd'hui est un calme pour toujours. Parce que les marchés peuvent se retourner brutalement et il peut y avoir, je le souhaite évidemment pas, mais au-delà de 5% de déficit, il peut y avoir un enchaînement négatif. L'Europe qui reprend des procédures de sanctions contre la France, parce que nous n'aurions pas tenu les engagements que nous avions pris. Des agences de notation, vous en parliez, qui nous dégradent à nouveau. Et du coup, des investisseurs internationaux qui sont très volatiles, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent repartir vite. Il y a notamment des investisseurs très court terme, ce qu'on appelle les hedge funds. Donc, nous sommes dans une situation mondiale de grande instabilité. On va sans doute parler des politiques américaines. Dans cette situation-là, ne prenons pas le risque d'un retournement des prêteurs à la France.
Qui pourrait avoir des conséquences assez rapides et des conséquences en chaîne. C'est là-dessus que vous alertez.
Ça a d'abord, évidemment, des conséquences sur le budget, parce que si la France trouvera toujours des prêteurs, la France ne fera pas faillite.
Mais le problème, c'est à quel prix?
Le problème, c'est exactement à quel prix. C'est pour ça que j'ai parlé d'étouffement budgétaire. C'est que nous risquons d'emprunter de plus en plus cher. Ça, c'est la première conséquence. Nous devons payer de plus en plus d'intérêts de la dette. Mais ça a aussi des conséquences pour tous les acteurs économiques en France. Pour les entreprises qui ont des crédits pour investir et pour les ménages encore plus qui ont des crédits immobiliers.
Vous avez dit, arrêtons de jouer avec l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous qui pourtant il y a un an, et je me souviens de vous avoir reçu à ce même micro, aviez plutôt plaidé pour une hausse de la fiscalité sur les très hauts revenus, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui ça a été trop loin? Un des points d'achoppement en ce moment, c'est la question de l'impôt qui ne devait être que ponctuel sur les très gros revenus des principales grandes entreprises. Et là-dessus ça coince parce que la droite en veut pas, parce que la gauche en veut.
Oui, alors là il faudra un compromis politique. Là, on vient, si vous voulez bien, sur l'autre aspect de ce budget, c'est que les 5%, c'est indispensable, mais je crois que c'est atteignable. Et qu'au fond, il faut un cocktail, enfin un alliage. Il faut d'abord essayer vraiment de stabiliser les dépenses. Nous avons aujourd'hui, en France, les dépenses les plus élevées, non seulement d'Europe, mais du monde. Et alors, sur l'impôt, je crois qu'il faut à la fois le rendre plus stable et plus juste. Il y a des mesures de justice encore possibles et il y a probablement besoin de certaines mesures ciblées, exceptionnelles, comme ce que vous disiez, c'est-à-dire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Ça, je l'ai dit et répété. Je le dis d'ailleurs sans enthousiasme, mais c'est nécessaire. Au-delà de ça, effectivement, la sagesse, c'est d'essayer de stabiliser au maximum l'impôt.
Vous le disiez en préambule, ça va pas si mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entrepreneurs, pour la première fois, on les entend énormément. Jusqu'à présent, ils estimaient que la politique, c'était la politique. Bon, là, on l'a entendu le MEDEF, on a entendu un certain nombre de grands patrons qu'on voyait pas sur les plateaux venir se plaindre de la situation, à la fois de la folie budgétaire à leurs yeux. Trop, c'est trop, disent certains patrons. C'est le titre d'ailleurs d'une tribune qui reparaît au nouveau aujourd'hui dans le journal L'Express. Et c'est aussi l'idée de l'instabilité, du manque de perspective. Mais dans le même temps, ils s'en sortent pas si mal, les entrepreneurs français.
Alors d'abord, sur la stabilité, il y a la stabilité fiscale dont on parlait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas certaines hausses d'impôts limitées, mais il faut arrêter d'improviser tous les 8 jours. Il y a la stabilité politique qui est souhaitable. Mais c'est vrai qu'au milieu de cet environnement, l'économie française résiste plutôt bien. Nous faisons une enquête chaque mois auprès de 8500 entrepreneurs sur le terrain, grâce aux femmes et aux hommes de la Banque de France. Cette enquête, nous l'avons publiée hier soir. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est que sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance devrait être d'au moins 0,9, parce que nous avons un tout petit peu réévalué la croissance attendue au dernier trimestre,
quatrième trimestre 2020. Quand vous dites au moins 0,9, si on est tout à fait précis, il me semble que dans vos dernières prévisions, vous disiez elle sera peut-être de 0,9. Si vous dites au moins, c'est-à-dire que 0,9 était un plafond, 0,9 serait désormais un plancher.
Alors, on ne disait pas peut-être, mais maintenant on dit effectivement au moins, donc c'est un plancher. Ça vaut aussi au moins 0,2 sur le dernier trimestre de l'an dernier. Et alors ça, c'est le courage des entrepreneurs que je salue, qui continuent à prendre des risques, à investir. Et puis, c'est le travail des Français. On ne le dit pas assez, mais il n'y a jamais eu autant de Français au travail, en nombre d'heures travaillées. Et les Français travaillent plutôt bien en termes de productivité par heure. Je crois que ça reflète aussi un certain nombre d'atouts structurels dans la durée de l'économie française. Nous sommes plutôt une économie de services. à l'intérieur de l'industrie qui souffre beaucoup en Allemagne, par exemple la spécialisation française, l'aéronautique, la défense est plutôt porteuse. Et puis nous sommes moins exposés à la grande exportation vers les États-Unis, donc on souffre moins des tarifs de Monsieur Trump, ou vers la Chine, on souffre moins des tensions avec la Chine. Voilà, pour autant, l'incertitude nous coûte par rapport à ces 0,9. Nous estimons que l'incertitude politique, budgétaire, ça coûte au moins 0,2 points de croissance à la France.
Ça veut dire qu'on serait...
On serait au-delà de 1%, et on devrait d'ailleurs globalement...
S'il n'y avait pas eu ces méandres politiques.
Voilà. Et puis globalement, on devrait faire beaucoup mieux sur la croissance. Autour de 1%, ça n'est pas suffisant.
Mais quel gâchis.
Oui, alors ça ne tient pas qu'à l'incertitude politique.
Non, mais je sais bien aussi... que quand je me lance dans ce genre de mots, ça vous fait peur. Vous ne voulez pas forcément avoir l'air de...
J'ai parlé moi-même de la stabilité politique. Mais je crois que c'est important de voir... À côté de ça, un problème qui concerne toute l'Europe, et là pas seulement la France, qui est que nous ne mobilisons pas assez nos ressources. On a ce défi américain, on a la nouvelle administration autour de M. Trump, on en parle tous les matins, entre nous peut-être un peu trop. On ne peut pas changer l'autre côté de l'Atlantique, mais nous devons changer notre côté à nous. Les Européens ont plein de ressources, ils ont une épargne abondante, ils ont un grand marché, ils ont un réservoir de talents humains et de jeunes, on va peut-être parler des jeunes, formidable. On a en plus la feuille de route, c'est ce qu'on a appelé le rapport Draghi de 2024. Réveillons-nous, mobilisons-nous, Monsieur Trump doit servir à cela.
Je me souviens en particulier, lorsque je vous ai reçu il y a un an, vous citiez ce même rapport Draghi, et à propos de la France, vous disiez il n'y a pas assez d'investissements et il y a surtout trop de normes. Quand vous voyez la colère agricole ces derniers temps, et effectivement le fait de regarder beaucoup les États-Unis ou l'Amérique du Sud... ou Bruxelles, en disant que c'est un peu la faute de tout ça à la fois. Est-ce que c'est pas surtout la faute de nos propres politiques qui ont effectivement étouffé, je reprends votre mot, un certain nombre de nos agriculteurs avec des normes, avec des contraintes, avec une fiscalité beaucoup plus lourde que celle de nos voisins?
Alors, il y a un peu de tout ça. Il faut se méfier des solutions trop simplistes. Au passage, sur le Mercosur, moi je comprends parfaitement la crise agricole et il faut qu'on la traite. Mais je ne crois pas que l'absence de Mercosur résoudrait les problèmes de certains secteurs agricoles.
On a fait du Mercosur un bouc émissaire, un peu facile.
C'est un bouc émissaire où c'est devenu un symbole. Notre débat a trop de symboles simplistes. Maintenant, sur l'histoire des normes et des simplifications. Il faut aller dans le sens des simplifications, je le dis depuis très longtemps. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas autoriser tous les pesticides. Ou si je prends un autre domaine dont la Banque de France a directement la charge, on ne va pas déréguler tout sur le plan financier. Ce que préparent les Américains risque de semer les germes d'une prochaine crise financière. Donc, comme dans beaucoup de choses, il faut un dialogue entre des objectifs qui peuvent être contradictoires et il faut trouver des compromis, un terrain raisonnable. C'est vrai pour le budget, c'est vrai pour les normes.
Vous dites, d'ailleurs, François Villeroy de Gallo, d'un côté, bon, on parle peut-être un peu trop des États-Unis, c'est un peu trop facile de se dire que ce serait une catastrophe, que tout irait mal, parce qu'au fond, c'est aussi à nous de prendre notre destin en main. Et en même temps, vous lancez un peu des bombes comme ça qui sont très inquiétantes en disant ils sont en train de préparer ce qui pourrait conduire à une crise financière mondiale.
Alors, je ne lance pas des bombes. J'ai déjà dit, avec beaucoup de mes collègues d'ailleurs, que on a eu des crises financières dans le passé, donc avoir des normes de sécurité en matière financière, c'est nécessaire. On va les garder en Europe, et ça protège l'Europe. J'espère beaucoup que les Américains trouveront un point raisonnable. Au passage, il y a eu ces derniers jours une attaque forte contre l'indépendance de la Banque centrale américaine.
Vous savez
quoi ? Son président Jay Powell, ça, je crois, ça fait aussi partie des dangers.
Eh bien, justement, François Villeroy de Gallo, votre homologue américain, il a répondu, c'est rarissime, à effectivement ce qu'il estime être des attaques personnelles et contre l'indépendance de la Banque américaine. Écoutons ce qu'il dit, Monsieur Powell.
La menace de poursuite pénale est une conséquence du fait que la réserve fédérale fixe les taux d'intérêt en se basant sur notre meilleure évaluation de ce qui servira l'intérêt public plutôt qu'en suivant les préférences du président. Il s'agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer les taux d'intérêt ou si au contraire la politique monétaire sera dictée par des pressions politiques ou des intimidations.
Jérôme Powell qu'on vient d'entendre, c'est le François Villeroy de Gallo des États-Unis.
Vous me faites un grand compliment.
Mais qu'est-ce que vous dites, effectivement? Vous le soutenez? Est-ce qu'il y a un vrai danger dans dans le non-respect de la séparation, de l'indépendance?
Je le soutiens totalement. D'abord, sur le plan personnel, il se trouve que je le connais bien, nous nous voyons régulièrement. Je peux dire que c'est un modèle d'intégrité et d'engagement public. Et puis, il y a les attaques contre la Fed, la Banque centrale elle-même. Et là, c'est une question très importante, c'est la question de l'indépendance. C'est-à-dire que les banques centrales doivent fixer les taux d'intérêt sans instruction du politique. C'est ça le cœur du débat. Je crois qu'il faut dire un mot de cette indépendance qui vaut pour la Banque de France, la Banque centrale européenne avec Madame Lagarde, comme pour la banque américaine. L'indépendance, c'est pas une chose que les banquiers centraux ont décidé un matin en se disant « Tiens, ça serait plus sympathique si nous étions indépendants ». C'est dans l'intérêt des citoyens. Pourquoi ? Parce que d'expérience, une banque centrale indépendante lutte mieux contre l'inflation. C'est pas un hasard, vous savez, l'inflation aux États-Unis, elle vient de paraître là, 2,7%, elle est plus de 3 fois supérieure à ce qu'on a en France, à 0,8. C'est lié au tarif de M. Trump, il a augmenté les droits de douane, du coup les biens importés coûtent plus cher. Mais la Fed est là pour lutter contre l'inflation. Les Américains sont extrêmement sensibles au niveau trop élevé de l'inflation là-bas. Ça semble d'ailleurs conduire à une impopularité des tarifs et de M. Trump. Et dans le même temps, on voudrait casser l'instrument qui permet de lutter contre l'inflation, c'est la Fed. Je crois que c'est très grave et que l'indépendance, elle est pour le bien des citoyens, que ça soit aux États-Unis ou en France et en Europe.
La question des taux et la question de l'inflation, ici, est-ce que les taux vont baisser ou continuer à se stabiliser? Et j'aimerais qu'on parle aussi de l'épargne et de l'inflation. Sur les taux d'abord.
Alors, sur les taux, nous avons beaucoup baissé les taux sur l'euro. On était à 4% en 2024. On est descendu à 2% aujourd'hui. Au passage, beaucoup plus bas qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais ce qui compte pour les Français, c'est souvent les taux du crédit immobilier. Alors, après avoir beaucoup baissé, ils sont stabilisés depuis quelques mois, un peu plus de 3% en moyenne. Du coup, les Français reviennent emprunter. On est à plus 35% de nouveaux prêts immobiliers en 2025 par rapport à l'année précédente. Mais je crois que c'est un bon moment pour emprunter parce qu'effectivement, la baisse des taux du crédit
donc
immobilier s'est arrêtée.
Donc, vous leur dites continuer à emprunter emprunter à nouveau.
Ça dépend des projets de chacun, mais c'est un très bon moment pour aller emprunter et mettre les banques en concurrence.
L'épargne des Français est très haut. C'est pas tellement une bonne nouvelle d'ailleurs ça.
Oui, c'est lié d'ailleurs à l'instabilité, à toutes les incertitudes dont on parlait.
Il est notamment sur le livret A, et ça c'est vous qui en avez aussi la charge. Est-ce que le taux du livret A pourrait monter ?
Alors, sur le livret A, la Banque de France fait la proposition, et c'est ensuite le ministre des Finances, Roland Lescure, qui décide. Il se trouve que c'est demain. Apolline de Malherbe, parce que ça dépend des chiffres définitifs d'inflation sur décembre qu'on aura demain matin. Donc, réponse demain matin. Ce que je peux dire, c'est que les taux du livret A, qui pourraient baisser un peu, mais devraient rester nettement supérieurs à l'inflation, et à l'inflation à 0,8. Et c'est encore plus vrai d'un produit dont on ne parle pas souvent, mais qui est encore plus intéressant, qui est livret d'épargne populaire. Il y aura un avantage plus marqué.
Donc, nettement supérieur à l'inflation. C'est ce que vous pouvez nous dire ce matin. François Villeroy de Gallo, l'inflation, justement, elle est stable désormais. Il n'y a pas de crainte qu'elle remonte.
Elle est très basse en France. Elle est même inférieure à la plupart de nos voisins. Les chiffres, c'est 0,8 en France et 2%, exactement notre objectif, pour la moyenne de la zone euro. Ça veut dire du pouvoir d'achat pour les Françaises. Ça veut dire des taux qui restent favorables. Ça veut dire aussi un avantage de compétitivité, c'est-à-dire pour les productions françaises, par rapport aux productions de nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, etc. Elle pourrait remonter un petit peu en France, mais dans le même temps, les salaires, les retraites, etc. augmentent. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat, encore cette année, va être plus que préservé. Moyenne toujours.
Vous l'avez entendu, la France, pour la première fois, il y a plus de morts que de naissances. Et dans le même temps, c'est presque la double peine. On redécouvre à travers vos analyses que le gouvernement et les différents politiques font toujours quasiment le choix des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes, de la jeunesse, des actifs. C'est encore le cas aujourd'hui et ça vous inquiète ?
Alors ça, c'est une question très importante. Je n'ai rien contre les seniors, Apolline de Malherbe. Je dois avouer que j'en suis un moi-même.
C'est la coquetterie de dire votre âge, vous le souhaitez,
Je peux avouer que j'ai 66 ans. Voilà. Donc, les seniors, ils ont pris part à tout le développement du pays et ils méritent évidemment toute considération. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a quand même un sujet un peu de répartition entre les seniors et les jeunes. Et que là, ces derniers temps, nous faisons systématiquement le choix des seniors plutôt que des jeunes dans le débat budgétaire. Le Parlement, qui nous représente, a choisi d'indexer complètement les dépenses de retraite, d'avoir plus de dépenses de santé et de financer ça par plus de déficit. Ça, c'est effectivement la double peine pour les jeunes. Parce que ces dépenses qu'on fait pour les seniors, on peut du coup pas les faire pour la jeune génération. On a moins pour l'éducation, pour le climat, pour la recherche, pour tout ce qui prépare l'avenir. Puis comme on a plus de déficit, nous leur transférons la facture à nos enfants et petits-enfants, à des générations qui viennent. Vous savez, nous sommes un peu dans la situation de gens sympathiques, etc., qui sont au restaurant, qui se font un très bon déjeuner, qui ne lésinent pas sur le dessert, les plats supplémentaires, la boisson, et puis arrive l'addition, on dit, ah ben ça, si vous voulez bien, vous laisserez l'addition aux clients qui arriveront après nous, aux générations qui arriveront après nous. Ça ne peut pas durer comme ça. D'habitude, les parents, les grands-parents aident leurs enfants. Ça reste vrai individuellement, mais collectivement, c'est le contraire. On transfère nos charges. C'est pour ça que j'ai parlé de budget gérontocratique. Vous savez, là, il faut revenir à Molière. Dans Les Fourberies de Scapin, Géronte, c'est le seigneur de l'époque. Molière est pas très gentil avec lui, d'ailleurs. Là, je défends le seigneur. Mais il faut penser, effectivement, à ceux qui viennent. Alors, dans Molière, je crois qu'il s'appelle Octave et Hyacinthe, la fille de Géronte. Pensons un peu à eux dans nos choix budgétaires. Donc, c'est notre intérêt.
Pensons à la fille et à la petite fille, donc, de Géronte. En tout cas, François Villeroy de Gallo, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Gouverneur de la Banque de France, il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. François Villeroy de Gallo était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous souhaitiez réagir à cette interview. Bonjour.
Bonjour, Madame Malherbe. J'ai envie de vous dire félicitations.
Ah bon ?
C'est très beau ce que vous avez fait. Ouais. Ce matin, d'offrir son micro même aux plus démunis. J'étais très touché en écoutant ce monsieur sans le sou.
Bon, il est pas sans le sou, c'est François Villeroy de Gallo, il est à la tête de la Banque de France.
Oui, c'est ce que je dis, à la tête de la Banque de France. Hein, 0 euros, 0 centime. Oh. Hein, hein. Il est même à la tête de moins 3600 milliards. Ça commence à faire un beau découvert. Hein. Je comprends ses propos, le pauvre est fauché. Hein, vous savez quoi? Il a peut-être même faim. Est-ce que Mme Malherbe lui a proposé un croissant, un bout de pain, quelque chose?
Je crois, j'espère.
Vous savez, monsieur de Gallo, vous êtes en face de moi. J'entends votre détresse, mais il y a des solutions. Je ne sais pas, moi, jouer de l'accordéon dans le métro. Hein, bon, c'est vrai que les Français n'auront pas de sous à vous donner, mais les touristes, peut-être.
Bon, vous êtes quand même un peu gonflé, monsieur le maire. C'est un peu de votre faute si la Banque de France est dans cet état, non?
Concerne ma faute. Attendez, moi je suis venu pour aider, hein, Mme Malherbe. Ah ouais. Pensez pas. Hein, on est là pour avancer, pour chercher des solutions, pas dire c'est la faute à machin ou la faute à truc. Et ça m'arrange, en plus de pas le dire. Hein. Mais j'assume, Mme Malherbe, droit dans les yeux, j'ai dépensé. Mais bon, c'était quand même lui le chef des banquiers. Hein. Quand en face de vous, vous avez un banquier qui vous autorise un découvert de moins 3000 milliards, bah, vous faites plaisir, on n'est pas con non plus. Hein. Mais je lui dis quand même avec beaucoup de compassion, courage François, hein, tu peux t'en sortir. Tu vois, tu as une cravate moche, tu peux la vendre sur Vinted. Hein. Sinon, tu peux, je ne sais pas, moi, peut-être dessiner des touristes à Montmartre, hein, ou vendre des marrons grillés sur une grille. Ou, je sais qu'il aime le vélo.
Ah oui.
Hein? Mais je sais qu'ils embauchent aussi sur Uber Eats. Hein? Je dis courage, mon François.
Bon, allez, arrêtez. On n'en est pas là quand même, monsieur le maire. C'est pas du tout les propos de monsieur Villeroy de Gallo, qui d'ailleurs est toujours avec nous. Tiens, j'aimerais qu'il nous éclaire sur la crise agricole.
Oui, bonjour madame de Malherbe. Écoutez, c'est bien que vous m'interrogiez, moi, le Jerome Powell français, oui, le français, le senior que je suis, oui, car, oui, madame de Malherbe, je suis un senior, oui, ben oui, j'ai 66 ans, je sais que je ne l'ai fait pas, vous auriez donné bien 72, mais non, je, voilà, alors, vous m'interrogez, et je vais répondre très facilement sur la crise agricole, puisqu'en tant que banquier, vous imaginez que je suis très à l'aise pour répondre sur ce type de sujet. Et j'aimerais d'ailleurs parler plus précisément de la production que je connais bien, la production de fraises, puisque je suis moi-même aux fraises. Mais surtout, il faut, en termes de production, arrêter, je le dis, avec beaucoup de conviction, je dis, attention, mon triple menton, il faut arrêter la production d'impôts dans ce pays, il faut procéder à l'arrachage, parce que ça ne marche pas. On plante beaucoup trop d'impôts et ils ne poussent que du déficit.
Bon, alors justement, revenons au budget quand même.
Alors, ça m'arrange. Attendez, j'enlève mes bottes, je remets mes mocassins tout terrain. Alors, pardonnez-moi, oui, madame Malherbe, je vais le dire avec un petit peu de gravité. Hein. Là, j'aimerais le dire avec beaucoup de sérieux, avec un peu de gravité, parce que c'est vrai que j'ai une voix, parce qu'on ne me prend pas au sérieux, parce que j'ai une voix tellement rassurante. Je fronce les sourcils. Non, je le dis avec gravité. Il nous faut un budget. Hein.
D'accord.
Voilà. Hein. Bon. Voilà.
Oulala.
Bon. Comme j'ai un petit peu plombé, allez, je vais essayer un petit peu de détendre un peu l'atmosphère avec une petite devinette pour nos amis agriculteurs. Amis agriculteurs, producteurs de fraises. Que fait une fraise sur un cheval? Tagada, tagada. C'est mon côté de Gallo.
Merci François Villeroy de Gallo, je suis plié. Et tout de suite, on retrouve bien Pascal Pro pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Eh oui, bonjour chers collègues, Apolline de Malherbe, toujours au firmament des audiences. J'empathie. Nous partons en Corse, si vous le voulez bien, tous les deux, non pas que tous les deux, avec vos auditeurs, nos auditeurs. La Corse est sous le choc après qu'Alain Sony ait été abattu d'un coup de carabine devant la pierre tombale de sa maman. On connaissait l'expression « faire d'une pierre deux coups », et bien chez nos amis corses, c'est le contraire, « faire d'un coup deux pierres ». L'actualité, c'est toujours la colère agricole. Paris est en train d'être, oui, nous l'espérons, débloqué, mais le port du Havre, lui, reste bloqué. On rassure quand même les habitants du Havre. Il reste toujours les routes, la gare et même l'aéroport si vous comptez vous enfuir au plus vite du Havre. Puis crise agricole toujours, les agriculteurs sont remontés à Paris hier pour exprimer leur colère et attirer l'attention du gouvernement. Jean Lassalle voulait les soutenir. Monsieur Lassalle, la parole est à vous.
Oui, bonjour monsieur Pro, monsieur Riguet, je vous demande, Mme Malherbe, comme Gérald de Gaulle et son appel du 18 juin, ils ont mis enfin un gars connu à sa place, juste pour alors, oui, je suis rebondir parce que je suis très facile dans l'humour. J'ai le sens de la répartie, je fais du Van Damme Show. Alors, donc je disais, comme Gérald de Gaulle et son appel du 18 juin sur Radio Londres, eh bien, je lance solennellement l'appel du 18 juin sur Radio, du 14 janvier, pardon, sur RMC. Oui, il faut, je le dis à nos amis agriculteurs, il faut résister. Mais à Paris, vous passez inaperçu, même dans vos tracteurs. Allons, ouvrez les yeux, parce qu'à Paris, une personne en colère qui roule à deux à l'heure dans un véhicule qui pue et qui gueule contre ses conditions de travail, c'est le quotidien. Ça s'appelle pas un manifestant, ça s'appelle un Parisien. Et vous êtes noyé dans le troupeau.
Merci, monsieur Lassalle. Les agriculteurs en colère qui bloquaient l'autoroute A64 ont été délogés hier par les forces de l'ordre. Et on fait le point avec Jérôme Bail. Bonjour. Oh.
Oui, moi j'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer à Paris, je suis rentré direct à la ferme, parce que j'ai appris une terrible nouvelle, qu'il y a eu un drame à la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça fait presque 2 mois que je suis absent, à bloquer l'autoroute, à faire brûler les palettes, les copains m'ont prévenu, ils m'ont dit « Jérôme, je crois qu'il faut que tu rentres, je comprenais pas le message, et là une fois rentré j'ai compris parce que ma femme...
Qu'est-ce qu'elle a, votre femme?
Ma femme, elle est partie!
Oh là là! Ah, je comprends, c'est très dur.
Mais non, mais je m'en fous qu'elle soit barrée! Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle s'est barrée avec...
Avec qui?
Elle s'est barrée avec... Avec un éleveur de bovins argentés!
Oh non!
Depuis le jeudi, j'ai dit que c'était la concurrence déloyale, bien sûr! Lui, c'est la concurrence déloyale! Lui, il est plus bandit que moi! Il a un joli accent! Il a pas besoin de mettre une casquette parce que lui... Il a des cheveux, lui. La concurrence est loyale.
Merci.
On va continuer avec les agriculteurs, parce qu'on a Didier Giraud, notre ami agriculteur de Saône-et-Loire, qui sera avec nous. Est-ce qu'ils se sont fait blouser, les agriculteurs? Vous venez en discuter avec nous au 32-16. KFC qui va proposer une offre 100% halal dans 24 restaurants. Là encore, ça mérite quelques commentaires. Et puis nous serons avec Alexandre Devecchio, le journaliste du Figaro. Il raconte son enfance en Seine-Saint-Denis. À l'époque, dit-il, nous vivions côte à côte. Aujourd'hui, on est face à face. Allez, à tout de suite.